Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire, présenté par Sylvie et Karina. Bonjour Karina.
Bonjour Sylvie.
Alors, on est un petit peu à la bourre, on s'en excuse, on a quelques soucis techniques, mais on va essayer quand même de vous faire une jolie locale.
Alors, au sommaire de cette locale du mardi 26 octobre, on va d'abord parler avec Damien Boyer, qui est de l'association Mieux Traverser le Deuil et qui va interpeller les prochains et prochaines candidates aux élections présidentielles. Et pour ensuite, pour terminer, on parlera avec Jeanne Favra, qui est assise à côté de moi de l'association Ados. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Et c'est le tout premier rendez-vous d'un rendez-vous qui sera régulier sur notre antenne dans la locale qui s'appelle Ritimodox. On vous en parlera tout à l'heure. Et comme d'habitude, des brèves et des infos locales.
Mieux Traverser le Deuil est une association qui a été créée avec la sortie du film Et je choisis de vivre, face au constat de l'absence totale d'accompagnement du deuil en France. Alors, on a avec nous Damien Boyer, qui est le fondateur de cette association. Bonjour Damien.
Bonjour, bonjour.
Alors Damien, fondateur de l'association Mieux Traverser le Deuil, qui je crois, date de 3 ans maintenant.
Voilà, exactement. On a vraiment créé cette association suite à la production du film « Et je choisis de vivre », qu'on a tourné en Drôme, qui a vraiment réveillé sur ce souci des personnes en deuil qui se retrouvaient seules. Et c'est un petit peu pleinement l'objectif de l'association, que plus aucun endeuillé se retrouve seul face à sa souffrance. Et donc, à travers une plateforme qu'on a montée, qui s'appelle mieuxtraverserledeuil.fr, eh bien, tous les jours, on propose de l'écoute gratuite pour des personnes en deuil, tout type de deuil, tous les âges. Et puis, on propose également des contenus digitaux, des articles, des vidéos, des parcours pour aiguiller les personnes en deuil.
Alors, il y a aussi effectivement des lives avec notamment Christophe Fauré, le psychologue. Et hier soir, par exemple, c'était sur la thématique du suicide. Le mois prochain, ça sera sur le deuil à l'école, donc avec différents. Et là, tout le monde peut accéder à ces lives.
Exactement, c'est sur YouTube, sur Facebook. Et l'idée, c'est vraiment d'amener cette parole du sujet du deuil, que ce soit effectivement sur des situations spécifiques comme le suicide, la perte d'un enfant, les veuves. En fait, on essaie d'aborder un maximum de sujets pour rejoindre et proposer des chemins d'apaisement à un maximum de personnes. C'est tous les mois qu'on propose ces lives.
Tu disais en préambule que ça a été créé donc avec la sortie du film Et je choisis de vivre, et que cette absence, quand tu parles d'absence totale d'accompagnement du deuil, c'est j'imagine que c'est pas que on parle pas d'accompagnement là intrafamilial, mais bien sociétal.
Oui, on parle du point de vue du gouvernement, des politiques engagées sur le sujet. En fait, aujourd'hui, ça paraît incroyable, il n'y a aucune politique qui intègre, que ce soit la santé, politique familiale, de solidarité, il n'y a aucune politique qui intègre le sujet du deuil, son accompagnement, son besoin. On a eu l'année dernière une esquisse d'espoir qui s'est dessinée, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'histoire d'un congé parental pour les parents en deuil. Ou même le président s'est retourné contre ses propres parlementaires en leur disant « Vous êtes inhumains parce qu'ils avaient voté contre.
Oui. »
Et finalement, ça a ouvert une loi. Donc, on a été sollicité avec d'autres associations pour faire bouger les choses au niveau du Parlement, du Sénat. Mais aujourd'hui encore, c'est une véritable honte. Les décrets d'application ne sont toujours pas mis en œuvre.
Ah oui.
Pourtant, on a eu le Covid entre-temps qui a quand même révélé et remis sur le devant de la scène le sujet du deuil, l'importance de vivre bien ses deuils. Et aujourd'hui, toujours rien.
Alors, effectivement, effet d'annonce, bon, c'est pas, on va dire qu'ils sont coutumiers du fait, malheureusement. Enfin, en l'occurrence, ça serait quand même bien que les choses avancent. Tu parles du Covid. Est-ce que durant cette période, vous avez vu plus de gens venir justement vers l'association, poser des problématiques différentes, ou peut-être simplement prendre conscience de certaines problématiques qu'on n'avait pas, parce que là, d'un coup, on était empêchés. Vis-à-vis du deuil, on était empêchés d'aller accompagner nos morts, etc. Est-ce que ça, tu l'as senti, tu et vous, l'avez senti?
Ah oui, la souffrance, elle était grandissante. On dit que ça a rajouté de la peine à la souffrance. En fait, le fait d'être limité à 30 personnes pour les enterrements, ça, c'était terrible. Parce que de ne pas pouvoir enterrer son mort, on parle de quelque chose d'anthropologique, c'est des rituels qui sont indispensables à toutes les civilisations. Et même pendant les guerres mondiales, on n'a pas vécu ça. Et je pense que le gouvernement n'a pas mesuré, parce qu'il connaît très mal ce sujet-là, en fait, il ne s'intéresse pas aujourd'hui, mal mesuré l'impact négatif. Aujourd'hui, on parle de deuil abîmé, c'est-à-dire déjà, le deuil, c'est pas un processus, c'est un processus naturel, certes, mais qui prend du temps, qui a besoin d'être soigné. Et en fait, là, tout le monde a pris cher, hein, pendant cette période-là. Donc, effectivement, on a vu sur la plateforme beaucoup plus d'emails et de retours qui exprimaient la souffrance des familles. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de monter justement la plateforme d'écoute, 7 jours sur 7, pendant le Covid, pour répondre et essayer de pallier à distance à ce besoin. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné dans le sens où on a accompagné pratiquement 7000 personnes depuis le démarrage. Wow. En avril dernier. Oui,
ouais, c'est énorme quand même, 7000 personnes.
C'est énorme, mais en fait, c'est rien, parce qu'on parle en réalité de 2,5 à 4 millions de nouveaux endeuillés en France chaque année. Mmh. Donc par rapport, alors oui, c'est énorme par rapport à la Drôme, mais par rapport aux besoins français, c'est vrai que la plateforme, maintenant, elle est ouverte sur toute la France, et on a les ambitions de rejoindre plus de personnes en deuil, de répandre un maximum.
Bien sûr.
On est notamment, aujourd'hui, on sait que ça amène énormément d'apaisement de pouvoir être écouté, de pouvoir formuler ce qu'on ressent, ce qui nous paraît extrêmement violent, et la plupart du temps, les écoutants rassurent les endeuillés en leur disant vous êtes normaux, en fait. Mmh. Même là, quand vous avez envie de vous suicider, vous pensez que votre vie est terminée, vous allez rester dans la douleur, en fait, il y a vraiment un espoir, il y aura de l'apaisement. Et on amène beaucoup d'espoir comme ça à travers la plateforme. Donc aujourd'hui, on aimerait l'ouvrir, on aimerait passer à une deuxième vitesse. Et voilà, c'est des projets.
Il y a une vraie prise de conscience, parce que c'est vrai que le deuil, c'est depuis que le monde est monde, de toute façon, voilà, on est et on meurt, malheureusement, ou heureusement, après avoir. Mais en tous les cas, il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité de parler. Peut-être qu'avant, on se disait, oui, bon, on est triste, c'est normal, et qu'aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. On a vraiment est-ce que les gens sont plus demandeurs, ou est-ce que simplement ils prennent conscience que c'est extrêmement violent à tous les niveaux, et surtout, ça a des répercussions sur la durée?
Ben, la violence, elle est réelle, elle est très très grande, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer, parce que c'est un sujet tabou, c'est un sujet de la mort, on n'aime pas trop en parler. Et je vous donne un exemple très concret. Par exemple, les chiffres montrent, par le sociologue Tanguy Châtel, avec qui on travaille, qui a fait la première étude en Europe en 2016, et puis renouvelée en 2019, il montre qu'il y a 42% des Français qui se sentent en deuil, sans traverser un deuil. Sur le point de vue du boulot, au travail, il y a 30% des arrêts de travail qui sont liés au deuil. Mmh. Un dernier chiffre qui va vous montrer un petit peu l'épuisement, c'est qu'il y a 50% des personnes qui traversent un deuil qui disent être épuisées physiquement et psychiquement. Donc en fait, on voit que ça dépasse tous les niveaux de la société, ça dépasse tous les âges. Le sujet du deuil, il est omniprésent et il est certain, c'est-à-dire que c'est une des rares souffrances qu'on sait devoir traverser.
Oui, c'est un vrai problème de santé publique aussi. Enfin, il faut aussi le mettre sur le tapis, et notamment, ben, ça permet de rebondir aussi sur la consultation citoyenne que vous lancez, puisque vous lancez cette consultation citoyenne pour pouvoir interpeller les candidats et candidates à l'élection présidentielle.
Exactement. En fait, l'idée, c'est de laisser vraiment la place à ce sujet qui est un des... Pour nous, c'est un des plus grands sujets de souffrance. C'est juste qu'on ne veut pas le voir, ça nous dérange. Et pourtant, on sait que ça change tout. de pouvoir assumer la mort, mieux la vivre, mieux traverser le deuil, en fait, ça nous rend extrêmement vivants, comme
Bien
jamais.
sûr.
Et c'est ce qu'on veut dire, en fait, aux présidentiables. C'est leur dire, regardez le terrain, maintenant, on va vous aider à ouvrir les yeux, voir des vraies histoires, des vrais retours, des familles basées sur des vraies expériences. On n'est pas sur une stratégie, on est sur d'autres sujets quand on veut de l'immigration, de la politique. Là, il y a un vrai sujet qui est là, qui demeure chaque jour, chaque année, c'est celui du deuil. Et si on s'occupe bien des endeuillés, si vraiment on met en place des politiques publiques, ça change vraiment, ça mène de l'apaisement dans les familles. Et en fait, on espère beaucoup rejoindre l'humanité aussi des présidentielles qui ont certainement vécu un deuil eux aussi, et que ça fasse écho, et qu'ils disent ah ouais, on n'avait pas pris conscience de la souffrance que c'était chez les autres, on n'a pas pris conscience que c'était possible d'amener de l'apaisement, parce que nous on le vit
C'est ça,
toujours.
c'est qu'on a, on a des leviers, on peut être présent.
Ah oui, vraiment, vraiment, nous on voit. Il y a des histoires incroyables, des couples séparés qui sont remis parce qu'ils sont mis à se comprendre. On a eu une personne qui parlait plus, qui s'est mis à parler parce qu'elle a eu un choc post-traumatique certainement, et puis l'apaisement a contribué à sa guérison. Enfin, il y a des choses très très belles qui arrivent dans les familles, mais il faut que ce soit un sujet avant tout. Donc faut il faut qu'il y ait des budgets, faut qu'il y ait des projets.
Bien
et
sûr.
C'est là où on interpelle les candidats à la présidentielle.
Alors, cette consultation citoyenne, elle consiste en quoi?
Alors, c'est très simple. C'est digital pour que ce soit rapide, pour qu'on ait un maximum de réponses. Et ce sont quatre questions qui sont lancées sur la page de Mieux traverser le deuil, sur la partie consultation, mieuxtraverserledeuil.fr. Et en fait, on va demander si les personnes ont traversé un deuil, si elles pensent que ça, avoir été suffisamment accompagnées, et si elle pense que c'est un sujet qui doit être un sujet intégré à la politique publique. Et puis on a des propositions, c'est très très simple à remplir. On a 16 propositions. Je vous donne quelques exemples. On part du principe, par exemple, que les enfants ne sont pas accompagnés à l'école, dans le sujet du deuil. Par exemple, si on prend juste le sujet des orphelins, il y a un orphelin par classe en France. Donc c'est un énorme sujet, mais c'est inconnu, hein. On se rend compte que le corps enseignant n'est pas du tout formé à accompagner ces sujets-là. Du coup, corps enseignant, en fait, on se rend compte que l'administration n'est pas formée, sensibilisée. Un policier, il annonce le décès. Un médecin n'est pas formé sur le sujet. Enfin, il est formé 4 heures, pardon, sur sa scolarité. On se rend compte, du coup, qu'il y a d'autres soucis qui sont extrêmement violents, comme l'administratif, pour les impôts, la CAF, la Sécu. Enfin, c'est pas réfléchi, en fait, pour amener de l'apaisement. En fait, ça rajoute de la peine encore à la peine. Et enfin, on se rend compte qu'un énorme besoin, c'est d'être suivi sur du long terme. C'est pas une maladie qu'on guérit. Ça joue sur du long terme, c'est un accompagnement. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aides qui sont demandées depuis le terrain, depuis les familles, mais qui n'aboutissent pas. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on propose. Et on propose 16 propositions très concrètes dans lesquelles tout un chacun peut répondre et nous donner son expérience, son vécu, sa vraie histoire pour les condenser, les synthétiser. Et les faire valoir auprès des présidentiables. Donc, on a besoin d'un maximum de réponses pour que ce soit réel. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ne pas hésiter à aider ceux qui ne savent pas utiliser le web aussi. Hein.
Oui.
Si vous avez vos parents, je pense que les plus concernés, c'est les plus de 60 ans, hein, bien sûr, qui perdent plus de proches que les autres. Donc, ce n'est pas forcément.
C'est vrai.
Ils ne sont pas forcément tous efficaces sur le digital, mais on veut que ce soit des projets de famille aussi, qu'on remplisse ensemble en famille comment on a vécu notre deuil et qu'est-ce que...
Oui, parce que ça permettra aussi du coup de libérer la parole aussi dans les familles, rien que de remplir cette consultation ensemble.
Et vous avez tout compris, on est d'accord avec ça. Dès qu'on ouvre le sujet, de toute manière, on y gagne quelque chose. Il y a un bénéfice auprès des familles. Dès qu'on ouvre ce sujet-là il y a des publics cibles, hein. Les femmes en général ont plus de facilité à parler de ça, les hommes sont plus réservés, et donc en fait on voit qu'il y a vraiment on est une société qui est sclérosée sur ce sujet et on a vraiment besoin d'ouvrir. Donc effectivement, rien que de parler de ce questionnaire, de comment réfléchir ensemble, d'échanger, ça va faire du bien.
Karina, tu as une question? Alors, tu as une question, si on t'ouvre ton micro.
Je ne m'entends pas. Oui, ça va mieux. Bonjour Damien.
Bonjour.
Déjà, merci, immense merci de faire ce que vous faites, parce qu'effectivement, face au deuil, on est tout seul, souvent. Et je voulais te demander si... Alors, c'est un sujet, comme on disait avec Sylvie avant l'émission, qui pourrait prendre une émission entière, parce que c'est très riche et très intéressant. Mais est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils de base pour les personnes qui nous écoutent et qui se sentent seules, qui ne savent pas par où commencer, par où prendre ce morceau du deuil pour aller mieux?
Alors, c'est une question un peu large.
Ouais.
Vous parlez des personnes en deuil elles-mêmes ou des personnes qui veulent aider d'autres en deuil?
Non, les personnes qui elles-mêmes traversent un deuil mais ne savent pas comment le faire.
D'accord. Alors, j'aimerais leur dire déjà une première chose, c'est que la souffrance, la difficulté, les difficultés qu'ils traversent, qui peuvent paraître extrêmement destructives, vont s'apaiser. Même si ça paraît impossible, elles vont s'apaiser. C'est l'expérience de toutes les familles qu'on accompagne qui le montrent. Ça prend du temps. Oui, c'est un peu long. Ça prend quelques années, suivant les personnes. Mais ce moment où on va se retrouver au sol à pleurer, plus savoir respirer, à suffoquer, va s'apaiser et sera de moins en moins fréquent. En revanche, cette peine qui est là et auquel on veut s'accrocher aussi parce que c'est le lien qu'on a avec la personne qu'on a perdue, eh bien, on peut l'entretenir dans quelque chose de beau. Nous, on conseille beaucoup d'utiliser des rituels, par exemple. C'est de prendre un moment à part. Alors, les rituels, c'est quelque chose qu'on invente, c'est un moment à part, un instant donné, où on va mettre une petite bougie, penser à la personne qu'on aime, mais peu importe, soit religieux ou pas. Hein. Ça va être une marche où on va être émerveillé par la beauté de la nature. Ça va être écrire une lettre à la personne qu'on a perdue. En fait, tous ces petits rituels vont nous aider à faire que cette mémoire-là, ce désir d'honorer la personne qu'on a perdue, existe. Et c'est ce chemin du deuil, c'est finalement ce chemin entre la personne qu'on a perdue physique, qui nous manque profondément, et donc cette absence qui va devenir une présence en nous. Et c'est avec des années que ça va se jouer, mais la personne qu'on a perdue qui nous paraît loin va se rapprocher intérieurement. Et ce chemin-là, il est naturel, il se fait chez tout le monde. Ça prend plus ou moins de temps, mais en tout cas, ça amène vraiment, et on peut le voir après des années, un véritable apaisement de pouvoir parler de la personne qu'on a perdue, qu'on aime profondément, d'en parler en famille, que ce soit un vrai sujet, en fait. Voilà. On se rend compte que la plus grande crainte, et ça, les personnes qui écoutent, vous le savez, c'est la personne qu'on a perdue, on veut pas l'oublier.
C'est l'oublier.
On a peur de l'oublier, d'oublier sa voix, donc on garde des doudous, on garde on garde son message téléphonique dans nos répondeurs. En fait, tout ça, c'est OK, c'est extrêmement bon de voir des photos. N'écoutez pas les personnes qui vous disent vous faites pas votre deuil, ça. Non. De valoriser la mémoire, c'est extrêmement bon. En fait, il y a un film qui est magnifique qui parle de ça, c'est le film Coco. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un film de Walt Disney qui explique qu'en fait, la véritable mort, c'est pas seulement la mort physique, mais c'est la mort dans l'oubli. C'est quand on a complètement oublié quelqu'un. Et justement, faire vivre la mémoire de quelqu'un, c'est se rapprocher de cette personne. Et ça nous fait extrêmement de bien. C'est ce qu'on conseille avec l'association. C'est ce que nous écoutons sur la plateforme tous les jours. Vous pouvez y aller, vous pouvez parler de vos deuils et vous verrez comme ils vous accompagnent. Mais en tout cas, c'est un véritable apaisement de se dire oui, j'ai mal déjà. Et c'est normal. Et c'est parce que j'aime que j'ai mal. Donc ça nous rassure de rappeler ça. Et oui, il y a des étapes. Vous verrez, on parle de 4 étapes du deuil. Vous le verrez sur le site. Oui, il y a des étapes extrêmement... violente et plus apaisante, mais ça fait du bien de se sentir normal aussi dans ce qu'on traverse. Ça nous rassure. Et puis il y a une mémoire, il y a cet apaisement qui arrive avec les mois, avec les années.
Moi, ce qu'on peut conseiller à toutes et tous, c'est donc d'aller sur effectivement le https://mieux-traverser-le-deuil.fr. Vous tapez mieux traverser le deuil dans n'importe quel moteur de recherche et puis on mettra le lien sur le site internet. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous. Bravo de cette très belle démarche de partage humain. Et ça, c'est c'est fondamental et on en a grandement besoin, toutes et tous. Et ça fait du bien à tout le monde, autant aux écoutants qu'aux gens qui viennent, aux écoutants et écoutantes qu'aux gens qui viennent chercher des conseils, chercher du réconfort, quel qu'il soit. Merci beaucoup, Damien.
Avec plaisir, n'hésitez pas à aller sur le site, n'hésitez pas à remplir cette consultation, à partager autour de vous. Vous serez surpris de voir que, en fait, quand on aborde le sujet avec simplicité, bah, il n'y a pas tant de tabou que ça, en fait.
Non, absolument.
On est fiers que ce projet vienne de la Drôme, parce qu'il va dépasser largement le département, mais c'est vrai que c'est chouette de voir que toute notre équipe est grande partie de l'équipe est ici et fait du bien à grande échelle.
Merci beaucoup.
Merci Damien.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors, on va se changer les idées et parler vacances maintenant et activités à faire pendant les vacances si jamais vous êtes en mal d'idées. Vous pouvez par exemple faire un escape game. C'est un jeu d'énigmes façon escape game. Ça se passe au château de Grignan. Ça s'appelle l'héritage. Grâce à vos intuitions et à votre raisonnement, vous pouvez être les premiers à exhumer une lettre de Madame de Sévigné. Attention, d'autres équipes ont exactement le même objectif que vous. Pour vous remettre de vos émotions, vous pourrez flâner dans les extérieurs du château de Grignan et profiter de la fameuse vue à 360 degrés depuis la terrasse. Pour participer à cet escape game, c'est le dimanche 31 octobre de 14h30 à 14h30 pardon, et à 16h30, durée 1h à 1h30. Le tarif, c'est 25€ en tarif plein et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez aussi réserver par groupe. Et tout ça se fait donc par téléphone au 04 75 91 83 64. 04 75 91 83 64 ou auprès du château de Grignan. Sinon, sachez aussi que les médiathèques vous proposent pas mal de choses pour les vacances. Pour commencer, la médiathèque La Passerelle à Bourg-lès-Valence organise de quoi se préparer à un tournoi de jeux vidéo. C'est comme un match de sport traditionnel. Le tournoi verra s'affronter des équipes surentraînées sur un jeu vidéo original et indépendant, l'un des meilleurs jeux de coopération paru sur Switch, PS4 et Xbox One. Il n'est pourtant pas le plus connu, mais voilà l'occasion de sortir les gènes de Minecraft, Fortnite, Mario Kart ou Just Dance pour pénétrer le monde merveilleux des jeux de coopération. Il y aura plusieurs prix à gagner. Donc la médiathèque compte sur la présence de 8 équipes. Le tournoi, ce sera le 30 octobre à partir de 16h jusqu'à 22h. Et pour vous entraîner, vous pouvez aller vous entraîner auprès directement des médiathèques. Jeudi et vendredi, jeudi 28, vendredi 29, ce sera de 10h à 12h à la médiathèque La Passerelle. Sur ces mêmes horaires, ce sera aussi à la médiathèque de Portes-lès-Valence. Sinon, mardi 26 jusqu'au vendredi 28 octobre, entre 14h et 16h, à la médiathèque de Romans-sur-Isère. À Fombarlette aussi, mercredi 27 octobre de 14h30 à 17h30 ou vendredi 29 octobre de 15h à 18h. Et à la fameuse médiathèque à la Tour Maubourg, jeudi 28 et vendredi 29 de 14h30 à 16h30. Et puis pour finir, les médiathèques organisent aussi une nuit du frisson pour Halloween. C'est Halloween avant l'heure à la médiathèque Beauvoir à Romans. Projection de 2 films d'épouvante pour les amateurs et amatrices de sensations fortes. Rendez-vous donc à Romans à la médiathèque samedi 30 octobre à partir de 17h30. Déguisement recommandé. La nuit du frisson, c'est sur inscription et interdit au moins de 14 ans.
Alors, Karina, vous l'annonçait tout à l'heure, les rendez-vous Rythmidoc d'Ados, très exactement, démarre aujourd'hui et on a le plaisir d'accueillir Jeanne Favra qui est de d'Ados, qui commence à être une habituée quasiment. Mm-hmm. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Alors Jeanne, Rythimo Ados, on sait à peu près ce que c'est, mais Rythimo en fait c'est quoi ? On peut dire que c'est l'info des solidarités, mais encore.
Alors oui, Rythimo c'est un réseau de lieux et d'organisations sur toute la France qui sont engagés dans un projet de mobilisation pour la solidarité international. Donc c'est un réseau qui date de 85 et dont le motto est le changement par l'info, car leur mode d'action principal est la collecte, la sélection et la diffusion d'une information critique, plurielle et diversifiée, qui privilégie l'expression des citoyens et des citoyennes, des associations et des mouvements sociaux de tous les continents. Donc Rythimo et ses membres, dont Ados, accueillent et informent du public sur les enjeux actuels et sur la solidarité internationale, produisent des contenus variés, organisent des séances de sensibilisation et de formation, et participent à une réflexion globale sur l'information comme un outil de transformation sociale. Et bien évidemment, j'en passe parce qu'en fait, ils font vraiment plein de choses. Donc pour plus d'infos, je vous invite à aller sur ritimo.org, qui est un site vraiment ultra riche avec plein de contenus, des articles, des outils, des formations, etc. Voilà.
Il y a 75 lieux ouverts au public en France, en tous les cas, qui sont des relais Ritimo, je ne sais pas comment les appeler.
Voilà, des relais et des membres, mais effectivement, il y a 75 structures sur tout le territoire français. Donc certains d'entre eux sont des centres de documentation, certains d'entre eux sont des associations de solidarité internationale ou d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, donc comme ADOS. Nous, ADOS, on n'accueille pas de public dans nos locaux, on n'a pas une bibliothèque dédiée, mais par contre, on participe à certaines autres missions de Ritimo. Et donc, vraiment, c'est un réseau très riche et dynamique avec des structures qui ont des histoires aussi passionnantes et qui font vraiment un gros boulot pour la solidarité internationale.
Et donc, on s'est dit que cette année, tu allais nous partager justement des coups de cœur ou des coups de gueule aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, de ça, en tous les cas, des documents qui sont proposés par Ritimo et qui sont qu'on peut trouver chez ADOS notamment.
Voilà, parce que l'idée de cette chronique, c'est de valoriser en fait des ouvrages qu'on reçoit par le biais du réseau. Il faut savoir qu'ils ont une commission de documentation qui fait une sélection d'outils deux fois par an pour les membres, et donc on reçoit des livres, donc on choisit en fonction de nos thématiques de prédilection. Et c'est vrai qu'à ADOS, on a plein de livres et on voulait les valoriser. L'idée, c'est on n'est pas une bibliothèque, mais par contre, ça peut donner des pistes d'achat pour nos auditeurs et auditrices ou pour les médiathèques, parce qu'il y a vraiment des livres de qualité, et c'était l'objectif de cette chronique.
Super. Alors, ce premier coup de cœur.
Alors, le premier coup de cœur, c'est l'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates de Lionel Astruc. Donc là, c'est plutôt un coup de gueule que je vous partage aujourd'hui. Tout le monde connaît Bill Gates, fondateur de Microsoft, milliardaire et fondateur avec son ex-épouse Melinda d'une fondation qui lui a donné l'image d'un grand philanthrope. Et le récit d'investigation de Lionel Astruc a pour vocation donc d'aller gratter un peu cette image pour voir ce qui se cache derrière cette belle vitrine. Et je peux vous dire qu'on n'est pas déçus. Parce que au-delà de montrer que la fondation Bill Gates est avant tout, Bill et Melinda Gates, est avant tout un outil d'optimisation fiscale, donc en gros trouver un moyen pour payer le moins d'impôts possible et continuer à gagner plus d'argent, l'auteur montre aussi la façon dont les Gates utilisent le prétexte caritatif pour développer dans des pays d'Afrique, notamment des marchés pour de grosses multinationales partenaires, comme Coca-Cola, Monsanto et, bien évidemment, Microsoft. Lionel Astruc donc montre la façon dont la Fondation fait pression sur des États et des organisations internationales, comme l'Organisation mondiale pour la santé, afin d'influencer des politiques publiques ou de développement. La Fondation apporte un soutien financier colossal pour développer ce qu'elle présente comme des solutions, comme les OGM, par exemple, ou les nouvelles technologies, alors que ces solutions peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des populations ou sur l'environnement. Donc l'idée du livre de Lionel Astruc, c'est pas de faire un portrait au vitriol des Gates, dont la bonne volonté est sans doute remarquable, mais vraiment de montrer la façon dont les pratiques de philanthrocapitalisme, ou ce qu'on appelle aussi charity business, peuvent avoir des conséquences nocives. La lecture de ce livre m'a apporté plein d'éléments pour comprendre la complexité de ce domaine, et c'est pour ça que je voulais aussi le recommander aujourd'hui.
Super, merci. Alors ça, c'est le premier coup de cœur. Et puis, tu en as d'autres sous le pied.
Le second livre que je voulais vous présenter s'appelle « Discrimination, inventaire pour ne plus se taire » d'Emma Strack, illustré par Maria Frade. Donc, c'est un livre jeunesse et ce livre devrait, à mon avis, être mis dans toutes les mains des enfants, ados et aussi de leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'il dresse un panorama très large des différentes formes de rejet de l'autre, plus ou moins violentes, qui ont entaché notre histoire et qui continuent d'imprégner notre quotidien en France et dans le monde. Donc le livre est découpé en 5 chapitres sur l'origine, l'apparence, l'identité, l'appartenance et l'état de santé. Et sur chacune des pages, on a des dates, des chiffres clés et des définitions qui viennent expliquer de façon très factuelle ce que sont les discriminations et comment elles se traduisent dans notre quotidien. Il y a aussi des focus qui sont faits sur certaines personnalités qui ont consacré ou qui consacrent leur énergie et leur vie à lutter contre toute forme de discrimination. En plus de l'intérêt des informations, le livre bénéficie aussi de très belles illustrations de Maria Frad et d'une mise en page très attractive qui devrait plaire aux plus jeunes. C'est un livre utile et essentiel dans cette période de campagne électorale où les discours deviennent de plus en plus violents et dans cette période aussi où malheureusement le harcèlement scolaire fait des ravages. Donc pour finir, je vais piquer le livre à Sylvie qui me l'a regarder les illustrations.
Non, c'est magnifique. Il y a des illustrations superbes, de très belles couleurs. Enfin, c'est très attrayant. On a très envie pense que je vais te le piquer.
Et je voulais juste vous lire un extrait de l'introduction que je trouve pleine de poésie. Si l'autre me fait peur, je l'effraie moi aussi, car je suis son autre. On se regarde à travers nos différences, comme si elles constituaient autant de menaces. Pourtant, c'est bien la haine cultivée entre les humains qui les menace. Ne dit-on pas que l'homme est un loup pour l'homme ? Chacun d'entre nous est différent, c'est la règle du jeu, même pour les jumeaux. Si l'on accepte, en bon joueur, tout devient découverte et curiosité. Fini la suspicion, la peur, le mépris. On considère alors la beauté de l'humanité, belle parce que plurielle.
Superbe. Wow. C'est aux éditions de la Martinière Jeunesse, les belles éditions de la Martinière.
Tout à fait. Et donc pour finir, si j'ai encore un petit peu de temps, je voulais vous présenter un dernier ouvrage qui s'appelle « L'écologie, un problème de riche » de Ritimo. Parce que comme je vous l'indiquais, Ritimo produit aussi du contenu et édite des petits livres, des petits guides pratiques et très utiles sur des thématiques variées dont j'aurai l'occasion d'en parler lors de prochaines chroniques. Donc le dernier en date s'attaque au thème de l'écologie pour démonter les raccourcis et les idées reçues courantes sur le sujet, comme « il faut de la croissance pour redistribuer la richesse, tant pis pour l'environnement » ou « face à la crise environnementale, nous sommes tous dans le même bateau ». Donc pour moi, c'est un livre que tout le monde devrait lire, à la fois pour se préparer au débat lors des dîners et autres rencontres avec des personnes qui ne sont ni sensibles ni convaincues par l'écologie, mais aussi pour comprendre la complexité du sujet et savoir identifier les fausses solutions qu'on a tendance à nous mettre en avant, comme par exemple celle des entreprises qui font du greenwashing. Surtout, le livre nous montre à quel point la crise environnementale ne nous impacte pas de la même manière en fonction de notre lieu d'habitation ou de nos revenus. Et aussi la manière dont les causes et les conséquences de la crise environnementale s'imbriquent avec celles d'autres luttes. Donc c'est un livre qui est très riche et qui est aussi illustré d'illustrations de Claire Robert que j'apprécie particulièrement. Et donc je vous recommande vivement la lecture parce que c'est un sujet très actuel.
On peut peut-être donner les titres des trois ouvrages.
Oui, donc pour résumer, L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates de Lionel Astruc, Discrimination, inventaire pour ne plus se taire de Maria Frad et L'écologie, un problème de riche de Ritimo.
Très bien, merci beaucoup Jeanne.
Merci.
Et on va se précipiter dans nos médiathèques et sur les sites internet pour retrouver ça. On peut les commander aussi auprès de nos libraires.
Tout à fait. Et je précise quand même que l'écologie, un problème de riche, est vendue par l'association Ados en tant que membre. Donc par contre, pour ce livre, si certains ou certaines d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter.
Très bien, on mettra tous les liens, Karina,
oui,
on mettra tous les liens.
Sur le site internet de Radio BLV.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'accueil.
Merci.
Et c'est la fin de cette locale. Alors merci Clément pour la régie. Merci Karina pour la co-animation. Merci Jeanne d'avoir été là. Merci à Damien d'avoir été au téléphone. Rediffusion de cette locale comme tous les jours à 18h. Puis réécoute et podcast sur le site www.radioblv.com. Et la suite des programmes, eh bien, vous retrouvez Le Grand Mag, deuxième diffusion, deuxième semaine de diffusion de ce premier épisode du Grand Mag à 17h. Rediffusion de l'invité aujourd'hui, c'était Guillaume Herbeau, photojournaliste dont vous pouvez voir les très fortes expositions au CPA jusqu'en mars. Et puis rediffusion de cette locale, musique de sac et de cordes à 19h et à 20h15, c'est Chansomania. Et sinon, on se retrouve demain. Bonne journée.
Bonne journée.